man no mama économique.
Bienvenue à tous à ce numéro de Panorama économique, cette émission qui fait la rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Au menu de cette émission, le baromètre de la conjoncture économique toujours au rouge avec une nette amélioration. L'indice de confiance de chef d'entreprise est passé de moins 27% à moins 17% en janvier. Également dans cette émission, la rencontre cette semaine entre la Direction générale des impôts et les exploitants des grandes surfaces de la ville de province de Kinshasa. Il leur est reproché l'application sélective et non systématique de la TVA. Et puis cette signature à Kinshasa des contrats entre le ministère de l'énergie et deux firmes étrangères pour l'amélioration de la desserte en eau potable pour quelques communes de la ville de Kinshasa et de la desserte en électricité pour les provinces du Katanga et Kinshasa. Ça. Panorama économique, c'est la rétrospective de l'actualité économique, l'actualité que nous commentons et analysons avec un ou deux invités. Aujourd'hui, nous aurons peut-être le privilège d'en avoir deux dans ces studios. Nous sommes déjà avec Monsieur Gabriel Mouépou, il est directeur général adjoint à la Direction générale des douanes et accises, DGDA en sigle. Bonjour Monsieur Mouépou.
Bonjour madame.
Et puis l'autre invité va sûrement nous rejoindre dans ce studio. Il s'agit de Monsieur Malingoumou, assistant à l'université de Kinshasa et expert en économie. Jocelyne Moussa Oponde et Dako Tambikila vous présentent ce panorama économique. Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de cette semaine, le baromètre de la conjoncture économique, toujours au rouge, mais avec une nette appréciation en janvier 2012 par rapport à décembre 2011. L'indice de confiance de chef d'entreprise est passé de moins 27% en décembre à moins 17% en janvier. C'est ce qu'indique un communiqué de presse de la Direction générale de la politique monétaire et des opérations bancaires de la Banque centrale du Congo. Plus de détails dans cet élément de Dako Tambikila.
Parmi les facteurs explicatifs du ralentissement de l'activité économique de la RDC au début de cette année, la Banque centrale du Congo place en première position la réforme fiscale en vigueur qui a vu l'entrée en scène de la taxe sur la valeur ajoutée. Selon la Banque centrale du Congo, de nombreux ratés qui ont entouré l'application de cette réforme fiscale ont eu un impact négatif sur le moral des chefs d'entreprise. À cela, il faut ajouter l'ententisme observé dans les milieux d'affaires au regard de l'incertitude qui plane dans la mise en place des nouvelles institutions du pays. Pour la Direction générale de la politique monétaire de la Banque centrale du Congo, la conjoncture économique continue de se déprécier. De nombreux indicateurs chiffrés l'éprouvent. Dans les secteurs des industries extractives, par exemple, la Direction générale de la politique monétaire note une baisse de confiance outrée des entrepreneurs du secteur. De plus 3% en décembre 2011, les soldes de brut d'opinion des entrepreneurs de ce secteur s'établit actuellement à moins 29%, soit une baisse de 26%. Le secteur des industries manufacturières emboîte les pas de la dépréciation, car ses soldes est passé de moins 15% à moins 18%. Dans les secteurs des services et de la construction, par contre, la Banque centrale note une nette appréciation de la confiance des chefs d'entreprise. C'est le cas du secteur de la construction, où le solde brut d'opinion des chefs d'entreprise opérant dans ces secteurs est situé actuellement à 30% après avoir été à moins 22% au cours du mois de décembre 2011.
Voilà, je me tourne tout de suite vers vous, Monsieur Gabriel Mouépou. Vous êtes DGA de la DGDA, la Direction générale des douanes et accises. La TVA, c'est aussi votre domaine. Et on a l'impression que l'avènement de la TVA en RDC cause plus de dégâts que des avantages.
Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous m'offrez encore aujourd'hui pour que je puisse expliquer, essayer de vulgariser la TVA. Ce que je peux dire, c'est que, bon, comme on vient de le noter, l'indice de confiance des chefs d'entreprise s'est amélioré, quand bien même qu'il demeure encore dans le rouge. Mais en ce qui concerne la TVA, ce que nous pouvons dire, c'est que dans tous les pays du monde, quand on lance la TVA, Il y a une période de plus ou moins 3 mois au départ,
oui.
Pendant laquelle on observe des problèmes d'adaptation au niveau des opérateurs économiques, particulièrement. Et je crois que c'est ce qui se passe aussi chez nous aussi. Moi, j'ai l'indice national des prix, qui est aussi un autre baromètre.
Tout à fait.
L'indice national de prix indique que à la fin du mois de janvier, nous nous retrouvons avec un taux d'inflation selon l'Institut national des statistiques qui s'établit à 2,6% contre 3,4% au cours du mois de janvier 2011. Donc, en réalité, le taux d'inflation que nous avons observé au cours du mois de janvier 2012 est même inférieur à celui que nous avons enregistré en 2011 et en 2010. Il y a eu évidemment un emballement de prix, mais les opérateurs économiques ont commencé à baisser les prix après avoir corrigé notamment leurs calculs qu'ils faisaient sur la TVA.
On reste encore dans la rubrique TVA avec ces deuxièmes dossiers. Il s'est tenu mercredi à Kinshasa une rencontre entre la Direction générale des impôts, la DGI et les exploitants des grandes surfaces. Plusieurs faits leur sont reprochés, notamment l'application sélective et non systématique de la TVA. L'essentiel de cette réunion dans cet élément avec Dakota Mbikila.
L'objectif principal de cette rencontre était de donner des orientations aux exploitants des grandes surfaces, selon le constat fait sur terrain au sujet de l'application de la TVA et aussi recueillir leurs réactions. La DGI reproche aux grandes surfaces, entre autres, une application sélective de la TVA, c'est-à-dire, selon le tête des clients. Didoné Lokadi, DG de la DGI, résume ici ces différentes remarques.
Des clients. Nous voudrions insister sur le fait qu'une telle pratique est totalement illégale. Quand vous êtes assujetti, c'est l'ensemble de des opérations que vous réalisez qui doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Il a été relevé que la plupart des grandes surfaces appliquent la TVA sur certains produits qui sont expressément exonérés. Je voudrais parler principalement du pain. Au niveau de l'établissement de la facture, il doit être distingué sur la facture pour chacun des produits le prix de vente hors taxe et reprendre la TVA qui grève chaque produit.
Réagissant aux propos de la DGI, quelques exploitants des grandes surfaces qui ont requis l'anonymat estiment que les responsabilités sont partagées.
Est-ce qu'ils ont été sensibilisés à temps opportun pour l'application de la TVA? Ça aussi c'est un problème. Parce que tout ce qui se pose aujourd'hui comme problème devait être posé en amont pour une application aisée de la TVA. Mais maintenant là, on entre déjà de plein pied dans la TVA. Mais maintenant, les problèmes c'est comment ça s'est posé de gauche à droite.
Par la même occasion, Didoné Lokadi a rappelé la date butoir du 15 février, date à laquelle ces exploitants doivent apporter leur première déclaration de la collecte de la TVA pour le mois de janvier.
À la date du 15, nous attendons d'abord les déclarations de stock au 31 décembre 2011, parce que toutes les entreprises étaient tenues de pouvoir faire leur inventaire et de pouvoir présenter la situation de stock en distinguant le prix de revient hors ICA de l'ICA qui grève ce stock. Nous attendons aussi les premières déclarations de la TVA, en fait la TVA qui a été collectée au mois de janvier.
Une autre rencontre est prévue dans les jours qui viennent, et cette fois-là, avec les assujettis à la TVA, prestataires des services.
Monsieur Mouépou, on revient encore sur ces problèmes d'application de la TVA, comme le disait d'ailleurs tantôt un des intervenants. Est-ce que finalement, le problème ne se situe pas en amont, c'est-à-dire la sensibilisation, la pédagogie auprès des assujettis qui devaient venir bien avant l'entrée en vigueur de la TVA?
Bien, je pense que, comme on a eu à le dire, la loi sur la TVA a été promulguée le 20 août 2010 et donc les administrations douanières et fiscales avaient disposé donc de 18 mois pour prendre des mesures d'application mais aussi sensibiliser sur la TVA. En ce qui concerne particulièrement la DGI, je pense qu'il y a eu un plan de communication qui a été rigoureusement suivi et il me semble que, en ce qui concerne notamment les grandes surfaces, la DGI a eu à les sensibiliser bien avant l'entrée en vigueur de la TVA. Il me semble que ce qui s'est passé il y a 2 jours, c'est en prévision de la date butoir du 15 février. Comme vous le savez, au niveau de la DGI, c'est le 15, février que les opérateurs économiques auront à déposer leur première déclaration. En ce qui concerne la douane, chez nous, comme vous le savez, nous prélevons la TVA à l'importation. Et contrairement à la DGI, nous avons eu déjà nos premières déclarations au mois de janvier, donc à partir du 3 janvier. Et je peux déjà vous annoncer que la DGDA a enregistré au titre de la TVA déjà 31,7 milliards de francs congolais, ce qui indique au fait une progression de l'ordre de 13,78% des recettes. Si on fait des simulations par rapport à une application, on maintenait au fait l'application de l'ICA. Donc, si on maintenait l'application de l'ICA, on allait avoir 27,9. Et là, nous sommes à 31,7. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore un impact maximal, n'est-ce pas, de l'application de la TVA.
Oui.
Parce que nous sommes dans ce que nous appelons la phase transitoire.
Oui.
Donc, le mois de janvier, de février, de mars, c'est deux mois d'adaptation.
Côté de la douane, apparemment, il y a moins de problèmes.
Il y a moins de problèmes parce que la base d'imposition à l'importation est restée pratiquement la même. C'est chez nous, à la douane, c'est la valeur CIF, donc la valeur où nous mettons le coût d'acquisition de marchandises, nous mettons l'assurance et le fret, plus le droit de douane. Donc c'est ça la base d'imposition. Mais je voudrais ici indiquer que la préparation de l'entrée en vigueur de la TVA remonte, que ce soit au niveau de la DGI ou chez nous, aux années 2001-2002. Donc nous avons commencé à travailler.
Mais on n'a pas senti sur le terrain, on n'a pas vraiment senti cette.
Je vais vous donner quelques indications en termes de mesures préparatoires et qui procèdent déjà des années 2003. Donc je disais que déjà à partir de 2001, nous avons travaillé avec le département des finances publiques du Fonds monétaire international. Et chez nous à la douane par exemple, parce que c'est le terrain que je maîtrise le mieux, en 2003, nous avons relevé le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires de 3% à 15%. Déjà en 2003, c'était sur tous les produits de grande consommation, c'était pour préparer au fait les consommateurs à ne pas avoir un accroissement brutal dû à l'introduction de la TVA. Donc en passant de 15 à 16, normalement on ne devait pas ressentir une introduction brusque. En 2004, en ce qui concerne la douane par exemple, nous avons introduit ce qu'on appelle le principe de déductibilité de l'impôt sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les matières premières et les biens intermédiaires. Depuis 2004. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous prenez une entreprise comme Marsavco, parce que nous avons été chez Marsavco avec les ministres des Finances et les ministres de l'Économie, Marsavco nous a dit qu'il n'a aucune difficulté dans l'application de la TVA. Parce que c'est depuis 2004 qu'ils appliquent déjà le principe de la déductibilité en ce qui concerne l'ICA. Au fait, en réalité, l'impôt sur le chiffre d'affaires n'est pas déductible. Mais on a introduit ces mécanismes-là pour préparer déjà les opérateurs économiques à s'adapter à la TVA. Depuis 2004, ce qui s'est passé en réalité, c'est quoi? C'est que chez nous, en RDC, en matière des délais butoirs, les gens généralement se réveillent en dernière minute. Quand vous prenez par exemple le cas ici des grandes surfaces, dans les grandes surfaces, il y a des grandes surfaces qui ont 3000 produits. Quand vous vous réveillez le 1er janvier pour commencer maintenant à changer les étiquettes sur 3000 produits, c'est une affaire tout à fait impossible. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ne pas avoir de problème avec les impôts, ils ont choisi la solution la plus facile. Ils ont pris le prix auquel ils vendaient déjà, lequel prix comprenait déjà l'impôt sur le chiffre d'affaires. Ils ont tout simplement mis au-dessus la TVA. Parce qu'ils se disaient qu'en faisant ça, bon, le jour où il y aura un contrôle, en matière de TVA, bon, ils vont dire quand même qu'ils ont collecté.
On passe tout de suite au troisième dossier de cette semaine. C'est la signature jeudi à Kinshasa de contrats entre le ministère de l'Énergie et deux firmes étrangères pour l'amélioration de la desserte en eau potable pour quelques communes de la ville de Kinshasa et de la desserte en électricité pour les provinces du Katanga et Kinshasa.
L'une des deux firmes est italienne. La société Franco-Tosi Meccanica travaillera en partenariat avec la SNEL et l'autre chinoise, FestChina, travaillera, elle, avec la Régie des Eaux. C'est un financement de la Banque mondiale. Nadine Foula nous en dit plus.
D'abord pour la SNEL, ces travaux consisteront à la réhabilitation et la fiabilisation des groupes de la centrale hydroélectrique d'Inga 1 et 2. Soulignons que ces travaux sont financés par la Banque mondiale à hauteur de 13 millions d'euros. Ils vont au mois de mai 2012 jusqu'au mois d'avril 2013. Eric Mala, DG de la SNEL, revient sur les grandes lignes de ces travaux.
Les actions qui vont être menées dans le cadre de ces contrats visent essentiellement la fiabilisation de plusieurs machines et ce qui aura comme résultat final de pouvoir garantir 755 MW produits à partir de Inga. Et nous croyons donc qu'avec cette action, nous allons davantage sécuriser la desserte électrique à Kinshasa dans le Bas-Congo et même partiellement au Katanga.
Le deuxième contrat concerne la desserte en eau potable. Ici, les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise First China et les coûts de financement équivaut à près de 11 millions de dollars. Ils consisteront à l'amélioration et l'extension des services d'alimentation en eau potable. Le DG de la Régie des eaux nous en parle.
Il y aura la fourniture d'à peu près 234 km de canalisation ici dans la ville de Kinshasa. Et il y aura la pose de nouveaux branchements ainsi que la réhabilitation des anciens pour un chiffre global de 25 000. On va commencer les travaux dès la signature de ce contrat, c'est-à-dire le délai de février 2012 jusqu'à août 2014.
Pour le ministre de l'Énergie, cette énième signature devra répondre aux besoins de la population pour une meilleure desserte en eau potable et électricité.
Je signale que notre deuxième invité est déjà dans ce studio. Il s'agit de Monsieur Crispin Malingumu. Monsieur Crispin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes assistant à l'université de Kinshasa et expert en économie. Et avez-vous un commentaire à faire par rapport à cette information, à cette signature de contrat? Nous savons, d'ailleurs, comme le disait Nadine tout à l'heure, que ces financements est le énième que reçoit le ministère de l'Énergie pour l'amélioration de la desserte en électricité et en eau potable.
Le seul commentaire qu'on peut faire est que les travaux soient réalisés dans les délais et que cela puisse faciliter la desserte en eau potable ainsi que la desserte en électricité. Voyons voir.
Monsieur Moipou, quelque chose à dire?
Oui, bon, évidemment, je voudrais tout simplement rappeler que ce soit la SNEL ou la Régie des eaux, ce sont des sociétés qui sont confrontées à des problèmes de vétusté de leurs équipements. Mais je pense que pour arriver à renouveler ces équipements, cela nécessite des moyens colossaux. Et tel que j'ai vu là, 13 millions d'euros donnés à la SNEL, c'est justement, comme on a dit, c'est juste pour essayer de renforcer un peu la desserte en électricité en ce qui concerne la ville de Kinshasa et du Bas-Congo. Là, évidemment, c'est un financement de la Banque mondiale, mais il y a d'autres institutions financières qui exigent notamment qu'il y ait une contrepartie en ce qui concerne la partie congolaise. Vous avez suivi notamment le financement en ce qui concerne le barrage de Katende. C'était un financement sur Exim Bank de l'Inde.
Oui.
Donc, il y a une partie que la banque donne, mais il y a une partie, la contrepartie, que le gouvernement congolais devait donner.
Tout à fait.
Bon, la partie que le gouvernement congolais doit donner, ça procède de la mobilisation interne. Donc, pour arriver à mobiliser des financements importants, il faut que, au niveau interne, nous puissions arriver à mobiliser.
Il faut donc une bonne application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Merci.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles en bref. La Banque mondiale déclare que la croissance économique en RDC devrait avancer plus vite. Déclaration de son directeur des exploitations pour la RDC lors de la présentation du bilan annuel des activités de la Banque mondiale en RDC.
Selon Eustache Ouayoro, son institution recommande à la RDC une croissance économique de plus de 10%, d'autant plus qu'avec 7% de croissance, il sera difficile de multiplier par 10 les PIB par habitant d'ici 25 ans.
La DGRAD Katanga connue
connu une baisse de recettes pour l'année 2011 par rapport aux assignations qui étaient de plus de 144 milliards de francs congolais. Elle a réalisé environ 123 milliards de francs congolais, soit 85% des recettes.
C'est donc une baisse de recettes comparativement à l'année 2010 où elle avait atteint 102% par rapport aux assignations. Pour les directeurs provinciaux de la DGRAD Katanga, cette situation est due à plusieurs difficultés auxquelles son institution a fait face au cours de cette période.
Monsieur Malingumu Crispin, vous avez un commentaire à faire sur l'une ou l'autre information?
Comme vous venez de le dire, que la DGRAD Katanga n'a pas atteint ses assignations. Cela a été dû à quelques problèmes, mais les problèmes n'ont pas été identifiés. Donc c'est difficile que nous puissions faire un commentaire à ce sujet.
Monsieur Gabriel Mopou.
Je pense qu'en ce qui concerne la DGRAD Katanga, cela est lié au fait que en 2011, il y a eu une baisse des exportations. Alors je voudrais aussi revenir sur la recommandation qui a été faite par les directeurs d'exploitation de la Banque mondiale. Évidemment, actuellement, le taux de croissance est de 7%. Mais par rapport à ce que nous poursuivons comme objectif, notamment les objectifs, ce qu'on appelle les OMD, il a estimé qu'il fallait qu'on ait un taux de croissance à deux chiffres.
Et mais ça ne se décrète pas, il faut
il y a des mesures. Donc il faut arriver notamment à produire, à attirer les investissements. Et l'un des éléments les plus importants chez nous, en RDC, c'est notamment l'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, quand vous comparez, par exemple, les administrations douanières des autres pays, je prends le cas notamment de la Chine, nous avons été dans un bureau de douane, par exemple en Chine, où les bureaux, les seuls bureaux là, ils mobilisent à une journée ce que nous mobilisons en RDC pendant un mois. C'est parce que là-bas, quand vous arrivez là-bas, vous allez trouver, par exemple, qu'ils traitent par jour 100 bateaux. Alors que chez nous, ici, quand vous prenez le plus grand port qui est Matadi, nous n'avons que 10 quais. Et sur les 10 quais, il y a 4 qui étaient déjà en réfection. Il y en a un qui vient d'être réfectionné. Donc, nous avons maintenant 7 quais. Vous voyez que les niveaux des transactions, le volume des affaires en RDC est faible.
Panorama économique, reportage.
Le reportage retenu cette semaine est celui de la vente de fruits en cette période. Vous l'avez remarqué, plusieurs variétés sont présentes sur le marché. Et nous nous sommes intéressés à ces secteurs, plus particulièrement la production et la commercialisation de l'ananas. Mokhtar Mandantiem a fait le tour de quelques marchés de la capitale.
Pelogi Dingombi est planteur et commerçant d'ananas. Il détient une plantation à Sonabata dans le Bas-Congo. Nous l'avons rencontré au marché Gambela, un des marchés de la ville où il a l'habitude de livrer sa production aux marchands. Selon lui, ses fruits saisonniers atteignent sa maturité en saison sèche, mais les planteurs essayent de temps en temps de renouveler les rejets dans les plantations pour maintenir plus longtemps les produits sur les marchés.
Quand nous avons commencé à planter les ananas, c'était vraiment saisonnier. Bon, il y avait une période où on plantait, il y a d'autres où on ne plantait pas. Mais actuellement, nous avons essayé d'étudier le marché. C'est ce qui fait qu'à tout moment, dès que les rejets sont là, on essaie de planter. Ou un mois après, vous voyez encore les produits sur le marché.
Par ailleurs, ces planteurs évoquent le manque de moyens de transport et le mauvais état de la route au moment de l'évacuation des produits.
Nous avons un peu de difficultés qui concernent pour faire sortir la marchandise jusque dans la capitale. Alors, des fois, quand nous nous procurons du véhicule, le véhicule s'en va au village, ça nous prend 2 ou 3 jours. Dès qu'ils arrivent ici, les mamans viennent, ils achètent, ils s'en vont.
Selon les vendeuses rencontrées dans ce même marché, un colis d'ananas acheté à 17 000 francs se revend à 22 000 francs congolais. La marge de bénéfice n'est pas élevée car les coûts de transport influent. Les prix d'achat et de vente dépendent de la grandeur du fruit. Ils varient entre 500 et 1 500 francs congolais. Pourtant, ce marché pourrait rapporter plus si on y ajoutait de la valeur. Les quelques industries qui évoluent dans l'agroalimentaire utilisent des concentrés des jus importés de l'étranger. Aucune d'entre elles ne transforme les fruits locaux. Elles évoquent une désorganisation de ces filières et une faible production de fruits. Ce que soutiennent également les fabricants artisanaux de jus de fruits. Laurent Mouachiroua est l'un d'eux. Lui fabrique du jus 100% naturel, des jus jambo.
Le problème principal est malheureusement le prix trop élevé de la matière première ici au Congo. La production n'est pas encore assez organisée et assez industrialisée pour pouvoir produire en masse et pouvoir à ce moment-là proposer proposer des matières premières à beaucoup plus bas, ce qui pourrait intéresser pas mal de gens à faire de la transformation et mais penser à l'exportation. Moi, je penserais à la maxime qui dit l'union fait la force. Donc, c'est les organisations des différents producteurs de se mettre en association, parce que quand on est plus grand, on est plus fort.
La transformation des fruits peut pourtant beaucoup apporter à l'économie congolaise, à la création de l'emploi et faire profiter les amateurs des fruits qui aimeraient les avoir toute l'année. Il faut cependant que le ministère de l'Agriculture prête oreille aux doléances de ceux qui, malgré tout, évoluent dans ce secteur.
Voilà, Monsieur Crispin Malingumu, que vous inspire ce reportage, hein. Nous savons tout de même que, qu'à une certaine époque, on pouvait trouver sur le marché congolais du jus d'ananas, made in DRC, de concentré de tomates, chose qui ne se fait plus aujourd'hui.
Comme venait de le dire les représentants de la DGDA, nous comprenons qu'il y a un problème climat des affaires. Hormis ce problème de climat des affaires, il y a aussi un problème de manque de crédit qui devait être accordé à tous ces producteurs ou à qui pouvaient leur faciliter de pouvoir promouvoir leurs activités. Il y a aussi un problème de transport tel que je l'ai suivi. Donc nous comprenons qu'ils traversent beaucoup de problèmes qui font que leur secteur d'activité a une faible valeur ajoutée. Si on pouvait avoir par exemple une banque de crédit agricole comme ce fut dans les temps, cela peut-être pourrait faciliter à tous ces producteurs de pouvoir recourir à des crédits, et ces crédits pouvaient leur permettre de pouvoir faire des investissements qui pouvaient faciliter la transformation de leur production.
Monsieur Gabriel Mouepou, quelque chose à dire, un petit commentaire?
Oui, justement, je voulais insister sur le problème qu'ils ont soulevé, le problème de l'évacuation. Comme on le sait, il y a des provinces comme le Bas-Congo notamment, oui, qui, dans le temps, exportaient via le port de Boba, qui exportaient de fruits,
oui,
malheureusement, actuellement, et comme vous le savez, cela ne se fait plus. Alors que nous avons des terres qui sont fertiles, on peut bien produire localement ces jus de fruits. Bon, ces questions, comme on a dit, qu'on arrive justement à réhabiliter les voies d'évacuation, parce qu'à l'époque, je crois qu'il y avait même une voie ferrée qui permettait cette évacuation plus facile de produits qui venaient du bas fleuve. Mais aussi, il y a certains préalables, mais c'est ici le moment, disons, c'est ici le moment de pouvoir souligner le fait que nous devons faire en sorte que des choses que nous pouvons produire localement, qu'on puisse les produire au lieu de chaque fois d'importer même les choses comme le fruit.
Comme les cure-dents.
Même les cure-dents.
Voilà, c'est sur ces commentaires que prend fin le panorama économique de cette semaine. Merci à nos invités d'avoir fait ces déplacements pour les studios de radio au Capi. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Merci aussi à Dako d'avoir co-présenté avec moi cette émission. Le prochain rendez-vous avec l'économie, c'est déjà à partir de lundi, 18h15 de Kinshasa, pour Écho d'économie, Panorama économique. C'est pour samedi prochain, 12h30, heure de Kinshasa. Bon week-end à vous tous en compagnie de programmes de Radio Capi.